Et c'est ce lien qui existait, comme vous dites, qui faisait partie de ce qu'on faisait à Caen, par exemple, ou à Nantes, ou dans toutes les organisations qui a nécessité des déplacements physiques hors du quartier latin, par exemple, ou dans les organisations contre la guerre au Vietnam, ou contre à la fin de la guerre d'Algérie, les gens qui se déplaçaient pour aller vers les foyers immigrés ou bien les quartiers ouvriers. Et c'est cette espèce d'organisation qui se faisait en dehors du Parti communiste. Et c'est où on peut voir une vraie connexion ou un lien qui s'établit entre le monde ouvrier et le monde étudiant. Alors, si on oublie ça, on arrive à cette image d'une vague image romantique d'une crise de génération de fils contre père ou bien de montée de sève adolescente. C'est pour ça que je voulais surtout souligner les pratiques qui se faisait où on pourrait voir, à vrai dire, ce lien s'établit.
C'est important de ce qu'on raconte, enfin ce que vous racontez là, c'est les effets, ce que vous appelez les effets dépolitisants, les effets dépolitisants. C'est-à-dire que si on s'en tient à la version officielle de mai 68, c'est décourageant pour les plus jeunes. C'est décourageant pour les plus jeunes. La dépolitisation est réussie.
Oui.
Tout se vaut, tout est vu, tout est vain.
Tout est fini.
Tout est fini.
La dernière génération.
Voilà. Ouais. Voilà. Après nous, le déluge. Il n'y a même plus de déluge, il n'y a plus rien.
Oui.
Là, c'est terminé.
Oui.
Vous n'avez plus aucune chance. Il n'y a pas d'alternative. Mm-hmm. Et en fait, ceux qui ont imposé, selon vous, cette vision de l'histoire de 68, ce sont les acteurs eux-mêmes.
Oui.
Hein, c'est les acteurs, enfin, autoproclamés. Et vous avez toute une série, évidemment, de noms qu'on connaît tous, puisqu'ils sont omniprésents,
oui.
Qui ont donné, qui ont construit cette version, et oui. Qui ont confisqué, en fait, une histoire, selon vous.
Oui, c'est une vraie confiscation, et c'est fait, si on revient encore à cette question de l'échelle de l'événement, on prend un événement très immense, et on le réduit à soi-même. On se positionne comme acteur ou comme personnage principal dans son propre roman de formation. Alors, tout ça, c'était ma découverte spirituelle, c'était tout ça, c'est mon histoire à moi. Sur fond de barricade, moi, je faisais cette crise existentielle. Et comme ça, on a personnalisé et individualisé une histoire, et je veux dire qu'il y a des formes très très spécifiques du genre de récit qui se produisaient surtout entre 70 et 80, entre le 10e et le 20e anniversaire de mai. On peut voir plusieurs fois le même récit de « bon, j'étais aveugle, mais maintenant je vois très très clairement, je vois avec une grande lucidité ce que je ne voyais pas à l'époque parce que j'étais dupée ou bien je me suis trompée. Et maintenant, je peux voir les réalités économiques que je voyais pas. » Voilà, ça c'est l'histoire.
Alors, les étudiants changent de tactique. Ils iront dans les usines manifester avec les ouvriers en grève. Sur la route de Billancourt, transistor en bandoulière, ils entendent le fameux « Cohn-Bendit connaît pas » de Georges Séguy. Et quand ils arrivent devant les portes de Renault, les délégués syndicaux s'interposent entre les étudiants et les ouvriers.
Nous sommes évidemment tous d'accord qu'il faut maintenant que les choses changent, mais il faut qu'elles changent non pas dans l'anarchie, mais dans un mouvement puissant, organisé.
Un ouvrier pour un étudiant, qu'est-ce que c'est?
Vous voyez, c'est un homme qui travaille beaucoup pour gagner pas grand-chose. Comme c'est un homme, il a droit à travailler moins et à gagner plus. Cette nuit, par exemple, j'ai appris qu'il y a une très grosse inertie, à mon avis, dans la classe ouvrière, dont est responsable en partie le parti et les syndicats actuels sont quand même quelque chose d'assez statique.
Il n'y a pas un peu de romantisme révolutionnaire lorsqu'on est étudiant et qu'on vient regarder les ouvriers.